Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Monsieur Rosaire Vaillancourt, parce que semble-t-il qu'il n'y a pas juste chez Air Canada où c'est difficile d'avoir des services en français. Écoutez, Monsieur Vaillancourt est un chirurgien à la retraite. Il y avait beaucoup de points accumulés avec une carte de crédit de la Banque nationale, World Elite ou Mastercard. Donc, avec les points, il a décidé de se procurer un ordinateur Apple. Et c'est là que le trouble a commencé. Monsieur Vaillancourt, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Qu'est-ce qui s'est passé après que vous ayez dit « Bon, mais moi, avec mes milliers de points, je vais commander un ordinateur Apple. »
Bien, j'étais sur le site des récompenses à la carte et bon, ben, j'avais les points qui me permettaient d'aller le chercher. Puis, en fait, j'en ai acheté un petit peu supplémentaire, mais tu sais, c'était une trop, trop bonne occasion pour l'ordinateur. Et bon, mais quand tu commandes un ordinateur avec un clavier physique, à ce moment-là, tu veux spécifier la langue de ton clavier, mais je trouvais pas d'endroit pour le faire. Alors, j'ai appelé une première fois, c'était le soir, récompense à la carte, évidemment, là, je vous épargne des détails pour attendre, puis tout ça, mais bon, une gentille dame qui me répond, mais qui me dit que, bon, elle est junior, elle était pas au courant que, en fait, elle pensait pas que c'était possible d'avoir d'autres choses qu'un clavier anglais, mais que elle me suggérait de poser la question à un senior le lendemain. Fait que je me reprends le lendemain, là, je parle à un monsieur, toujours courtois, qui bon, sur le coup, avait l'air à me dire, ben non, c'est pas possible, ou tout ça. Je me souviens plus exactement du libellé, tu sais. Mais là, c'est là que j'ai commencé à sortir ma tirade à quelques reprises, là. Si je comprends bien, là, je peux pas avoir un clavier canadien-français sur un site de récompense de la Banque nationale dont le siège social est à Montréal, tu sais. Et là, quand tu as vu que j'ai répété 2-3 fois cette phrase-là, il a peut-être compris que là, je laisserais pas aller le morceau. Mm-hmm. Alors là, ce qu'il m'a dit, bon, ben là, j'étais en ligne avec lui. J'ai commandé l'ordinateur, je lui ai donné tout de suite le numéro de commande, il m'a dit « je vais rajouter à la main comme quoi que spécifier vous voulez un clavier canadien-français ». Bon, parfait, puis OK, mais merci beaucoup, puis on raccroche. Et quelques jours après, c'était très rapide, le service, je reçois l'ordinateur, qui est dans une boîte brune, c'est pas la boîte blanche habituelle de Apple. Mais il y a des étiquettes avec le numéro de série. Mais là, j'ai pas ouvert la boîte. Puis je me suis dit, si j'ouvre la boîte et que c'est pas le bon ordinateur, ils vont me dire, ben tu l'as ouvert, tu peux plus le retourner. Oui. Là, je voulais pas augmenter les risques de problème. J'ai appelé Apple. Ça m'a pris. Je parle à 3 personnes. Ils ont fini par aboutir à une conseillère senior qui est en Alberta, francophone, très gentille. Qui me dit que malheureusement, comme ils n'ont pas vendu l'ordinateur, ils ne sont pas les vendeurs, elle n'est pas capable avec le numéro de série de me dire quel clavier qu'il y a dans la boîte. Et là, il y avait sur la boîte une étiquette disant, ben si pas livré après 3 jours, retournez à Helix Global Solutions. Ça, c'est à Ville-Saint-Laurent. Il y a un numéro de téléphone, j'appelle. J'ai parlé à un monsieur courtois, anglophone, mais qui parlait quand même bien le français. Et qui lui encore me dit ben non, on n'en a pas, puis ça va l'air fini là, mais là j'ai ressorti encore ma tirade. Hein. Je suis bien sur le site de récompense de la Banque nationale dont le siège social dans Montréal. Fait que là, il m'a fait comprendre qu'il faisait quasiment un spécial juste pour moi, là, puis qu'il était pour m'en trouver un, mais qu'évidemment, je devais retourner l'autre clavier parce qu'il m'a confirmé que c'était pas un clavier canadien-français. Et puis, l'autre chose, je voulais m'assurer qu'il ne m'envoie pas un clavier français AZERTY, là, qui est complètement différent, l'européen, on veut pas ça non plus. Et puis, bon, il n'était pas trop au courant des différentes sortes de claviers. Et puis, mais bon, il m'a assuré qu'il me trouverait le clavier. Alors, il m'a envoyé par courriel une étiquette que j'ai imprimée, collé ça sur la boîte, je retourne ça à Poste Canada. Il m'a dit, la minute que je reçois l'ordinateur, je t'envoie l'autre. Bon, ça avait l'air simple. Et dès le lendemain, j'allais poster la boîte et avec le suivi, 24-48 heures après, j'ai eu la confirmation que ça avait été livré. Bon, entre-temps, il y a des choses qui font que j'ai pas eu le temps de trop suivre la chose à cause d'un événement familial. Alors, finalement, 2 semaines plus tard, toujours pas de nouvelles, pas reçu d'ordinateur, pas de courriel, rien. Alors là, je rappelle et... Après une deuxième tentative, sur Helix Global Solutions, j'ai parlé à une dame qui ne parlait pas français. Mais bon, une gentille dame. Et puis, je suis natif du West Island à Montréal. Hein. C'est le West Island, c'est pas l'ouest de l'île. Et puis, j'ai demandé à parler à l'autre monsieur qui m'a dit qu'il devait me rappeler. Mais finalement, il m'a écrit un courriel. Le courriel là, dont Mme Fournier faisait
référence. Parce que là, ce que vous avez fait, M. Vaillancourt, c'est que vous vous êtes adressé directement à la Banque nationale, là, pas à ses sous-contractants. Là,
Là, jusque-là, j'étais tout le temps avec Helix Global Solutions, qui semble être celui qui donne les services. Qui m'a motivé à écrire à M. Vachon. J'ai trouvé sur l'Internet une adresse courriel de M. Vachon. Je savais pas qu'il avait pris la retraite le vendredi d'avant, le PDG. Puis, évidemment, je m'attendais pas à avoir une réponse de M. Vachon, mais je me suis dit, tu sais, je parle à quelqu'un de la banque, on va voir ce qui se passe. Et puis non, ce qui m'a motivé, ce qui m'a donné un peu le fouetté pour aller un peu plus loin, et là, j'ai mis un média en copie, ça a été M. Rousseau de Air Canada qui m'a vraiment encouragé à...
Ça vous a pompé?
Je me suis dit, c'est clair que malheureusement, même au Québec, si tu le demandes pas le service, il vient pas automatiquement puis tout seul.
Et là, M. Vaillancourt, racontez aux gens ce que Claude Breton, vice-président communication et responsabilité sociale de la Banque nationale, vous a répondu quand vous y avez dit, écoutez, j'essaie d'avoir un ordinateur avec un clavier français grâce à votre carte de crédit puis les points. Qu'est-ce qu'il a répondu?
Oui, écoutez, je vais quand même lui regardez le sujet de mon courriel à moi, j'avais écrit mépris, indifférence ou négligence du fait français à la Banque nationale. J'ai mis deux points d'interrogation. J'ai l'impression que ça l'a frustré parce que c'était clair qu'il manifestait ça, mais je lui en tiens pas rigueur, honnêtement. Mais bon, je vais vous le lire, son courriel, il est tout court, je l'ai devant moi. Bonjour, M. Vaillancourt. Nos équipes ne ménagent pas d'efforts pour bien faire malgré les enjeux d'approvisionnement bien connus des différentes industries. Elles vous feront suivi. Pour le reste, en présumant de notre mauvaise foi, vous concourez à nourrir la polarisation et la fragmentation sociale. Au risque de vous décevoir, nous croyons d'abord au dialogue, au respect et au vivre ensemble, et c'est ce que nous continuerons de faire, bien à vous. Je lui ai d'ailleurs répondu, j'ai offert qu'on discute, j'avais changé le ton de mon nom de courrier, j'ai pas eu de nouvelles, mais un de ses collaborateurs a appelé, un monsieur très courtois, et puis là, j'ai pu lui raconter en long et en large toutes les difficultés. Écoutez, je suis bien prêt à dire qu'il n'y avait pas de mépris, mais sûrement il y a eu de la négligence dans l'idée que...
Juste une seconde, M. Vaillancourt. Oui. Tu sais, vous, tout ce que vous voulez comme Québécois francophone, d'une banque francophone qui offre des ordinateurs là, avec le système de points, c'est un ordinateur avec un clavier en français. Quand on vous accuse, parce que vous voulez ça... de concourir à nourrir la polarisation et la fragmentation sociale, selon les mots de Claude Breton, VP communication de la Banque nationale. Ouais. Comment vous avez réagi?
Ben écoutez, le ton de mon courriel, il est trop long, je vous le lirai pas. J'étais un peu frustré. Alors mon courriel manifestait cette frustration-là. Je pense que c'est ça qui l'a choqué. Je veux pas tomber dans cette escalade de se détester les uns les autres. Et au moins, il a eu le mérite de me répondre parce que j'ai eu un problème avec la Banque Scotia. Ou d'une carte de crédit qui m'a été livrée en anglais seulement quand je l'avais commandée en français. Puis là encore, j'ai écrit, j'ai fait ça, j'ai essayé encore avec le... J'ai écrit au PDG du Scotia, j'ai jamais eu de nouvelles de personne, là. Eux autres, qui compensent, c'est l'excellent service courtois et en français qu'on a à la succursale locale. Mais, fait que là, puis j'ai été absent 4 jours, de retour à la maison, là, l'ordinateur était sur mon perron et j'avais deux messages sur mon répondeur d'une dame qui se prénomme Muriel, qui confirmait que mon ordinateur était en route avec un numéro de traçage. Le lendemain, elle rappelle, puis elle me dit que l'ordinateur devrait avoir été livré, puis elle voulait que je la rappelle, mais en fait, elle m'a donné un numéro 800, puis elle m'avait dit, demandez à parler à Muriel. J'ai essayé une bonne 10-12 fois. Et ce numéro-là, ça sonne toujours occupé, puis il n'y a pas de boîte vocale.
OK, mais là, est-ce que votre ordi, est-ce que vous l'avez eu?
Oui, je l'ai eu.
Puis il y a un clavier en français?
Avec le clavier canadien-français, QWERTY français, bon. Le bon clavier que Apple fait, qui est très utile. C'est très facile d'écrire en français et en anglais avec un clavier comme ça, mais c'est pénible d'écrire en français avec un clavier canadien-anglais.
Puis c'est pénible aussi d'avoir à se battre pour l'avoir.
Ben, c'est sûr que c'est dommage. T'sais. Là, ils ont quand même fait un petit geste, mais ils ont mis... Ce que je souhaiterais, moi, dans le fond, ce serait un service égalitaire. Là, ils ont rajouté... Si vous allez sur le site de récompense à la carte de la Banque nationale, là vous allez voir qu'en bas de la description de l'ordinateur, là, il y a une petite ligne en rouge. Ben, pour un clavier en français, prévoyez un délai de 2-3 semaines. Le délai, ça me dérange pas. Mais c'est tout petit, tu sais, on a l'impression qu'ils souhaitent qu'on leur en demande le moins possible, parce que je pense que ça les a dérangés. En tout cas, Elite Global Solutions, le monsieur, il a fait son possible quand il a compris que je lâcherais pas le morceau, mais tu sais, c'est sûr que ça l'écœurait un peu tout le monde dans ce coin-là.
Vous avez bien fait de vous battre. Merci de nous avoir parlé ce soir.
Il n'y a pas de quoi.
Salut, à la prochaine. C'était Rosaire Vaillancourt. On va aller parler du fait français et du fait d'avoir à se battre pour le fait français avec lui. Salut, Luc.
Salut, Patrick.
Bon, écoute, on est à Montréal, on est au Québec. La Banque nationale, c'est une banque québécoise basée ici à Montréal. Je le sais que c'est une anecdote, mais il y a quelque chose dans la réponse du VP, Claude Breton, moi, qui m'a complètement jeté à terre aujourd'hui.
Oui, c'est un peu comme... Si tu insistes, c'est donc que tu veux brasser de la M. T'sais.
Tu nourris la polarisation et la fragmentation sociale. Il aurait dit quoi de Pierre Bourgault, ce gars-là?
Il en aurait eu plein les bras. Mais ça, cette attitude-là de dire c'est donc du trouble. T'sais, pourquoi tu ne suis pas le chemin comme tout le monde et tu n'acceptes pas notre cadeau? On t'a donné des points, les points qui sont liés à ta carte. Puis là, tu as le droit à un ordinateur. Sois donc gentil, accepte-le, puis c'est tout. Là. Mais et. Moi, il y a deux affaires qui me titillent là-dedans. Bon, d'abord, on a perdu, là. Tu sais, j'arrête pas de le dire à tout le monde. T'sais, comme le climat, comme pour la langue, là. Minute, là. Je veux dire, tu commandes une cafetière Bréville à 1 000 $, puis ça vient avec des petits autocollants que tu dois mettre par-dessus les mots anglais, là. Il y en a pas une en français. Puis c'est pas parce que Bréville est une compagnie pas bonne, c'est parce que, une mauvaise compagnie, c'est parce que c'est ça le capitalisme à échelle oui, internationale. Oui, oui. Ils en produisent 100 000, puis nous autres au Québec, on en achète, mettons, 2 000. C'est pas ça les vrais chiffres, ça doit être 2 millions, puis nous, on en achète 100 000. Puis ils vont pas en faire une en français pour nous, là. Puis la plupart des ordinateurs pas chers, ben ils arriveront pas avec le bon clavier. Fait qu'on finit par s'habituer. Moi, j'avais affaire avec une compagnie de téléphone qui s'appelait Vanguard, qui était en Colombie-Britannique il y a quelques années, parce que c'était moins cher. Puis ils m'envoient la facture en anglais seulement. Puis j'ai dit, je ne la payerai pas, envoyez-moi en une en français. Puis non, on va pas t'en envoyer une en français. Qu'on a des clients à travers l'Amérique du Nord, et t'es en anglais la facture. Ben, j'avais dit, je ne la payerai pas. Puis ils m'avaient envoyé un greffier, puis ci, puis ça. Mais
regarde, un greffier, qu'est-ce que tu veux dire?
Une personne à la porte qui était venue frapper pour dire...
Un huissier!
Un huissier, ouais, pas un greffier. Moi, j'étais habitué avec le conseil.
Des formations professionnelles.
Ouais, c'est ça. Puis, mais c'est ça. L'idée, c'est que on fait affaire avec des impartiteurs, avec des compagnies, Elix Global Solutions, Mastercard World Elite. On fait affaire avec des distributeurs, avec des producteurs de produits. Ça, c'est nous. On a imparti ça. C'est pas la Banque nationale qui va traiter tous ces dossiers-là. Bon, correct. Ça, c'est en bas de la pyramide. En haut de la pyramide, on a des VP anglophones seulement, parce que qu'est-ce que tu veux? Ça arrive souvent que des VP spécialisés dans tel achat de stock puis telle gestion de finances sont anglophones seulement. On l'a vu avec la Banque Laurentienne aussi. C'est pas juste la Banque nationale. D'ailleurs, la Banque nationale, petite parenthèse, sont en train de construire un magnifique siège social au centre-ville dans le Vieux-Montréal, un leg de M. Vachon à la ville de Montréal. Referme la parenthèse, quand même quelque chose de majeur. Et pas juste pour des questions d'affaires. Là, c'est des questions, ça va ajouter à la beauté de la ville. Mais en haut, on comprend qu'il y a de l'anglais. En bas, on comprend qu'il y a de l'anglais. Mesdames et messieurs, sentez-vous les murs se resserrer sur vous? C'est ça la question.
Mais Luc, tu sais ce que tu racontes là pour la cafetière, là, c'est une chose, OK? Moi aussi, je comprends. Je commande quelque chose, ça arrive, les instructions arrivent en anglais. C'est correct, OK?
Ben non, c'est pas correct, non, mais c'est correct.
Mais c'est pas correct, mais c'est correct. Okay, on se comprend, là.
C'est ça.
Mais là, tu contactes la banque parce que la compagnie qui est en impartition sur la livraison de l'ordi n'est pas capable de te livrer l'ordi avec un clavier français. Puis tu te fais répondre, pas par un employé no-name, là. Par un VP, tu te fais répondre, « Hey, t'es en train de nourrir la polarisation et la fragmentation sociale parce que toi, le niaiseux, tu veux ton clavier en français sur ton ordi. »
Oui, c'est... OK.
Écoute, c'est-tu... Dans ta définition des choses... C'est faut-tu être colonisé pour dire ça?
Ben, d'une part, puis d'autre part, il faut avoir la peau mince en mot à dire. Parce que ce qu'il a dit, c'est que le titre du courriel de M. Rosaire, c'est quoi son nom de famille?
Rosaire Vaillancourt.
Vaillancourt. D'ailleurs, Rosaire, c'est un beau nom. Je ne crois pas que les parents ne donnent pas ça à leurs enfants. Rosaire, c'est joli.
Ça va revenir à mode, hein? Les prénoms d'un autre temps reviennent à mode.
Le nom de mon grand-père.
Ben oui, Rosaire. Mais donc, il n'a pas aimé le titre en disant est-ce que c'est du mépris? Est-ce que c'est... Hey. Ben, ouais. Non, c'est pas du mépris. Mais sais-tu quoi? C'est pas à toi d'en décider si c'est du mépris ou pas. Le résultat, c'est 6 semaines pour avoir le clavier en français versus 1 semaine pour avoir le clavier en français. Appelle ça du mépris, appelle ça comme tu veux, il y a un problème. Fait que toi, tu aurais dû dire, moi, en tant que VP, je m'excuse du problème. Pas j'accuse, j'attaque le gars qui signale le problème.
C'est une réponse de PDG de banque unilingue anglophone qui est obligé de répondre.
C'est un peu ça.
Tu sais, Michael Russo, ce serait son genre de réponse, là.
Oui. Mais peut-être pire que ça, parce qu'en fait, lui, ça a l'air d'un francophone qui a répondu en français.
Ouais, Claude Breton, en tout cas, oui. C'est très français, là.
Ce que ça dit, c'est achale-moi donc pas avec ça. Là. Voyons donc, on est en haut de ça. Voyons donc, on va pas s'accrocher les pieds dans les détails de l'histoire, mais si personne s'accroche les pieds dans les détails de l'histoire, ben le résultat, c'est que le flot coule, tu sais, puis que ça, on n'arrête jamais cette machine-là, tu sais.
Hey, nous croyons d'abord au dialogue, au respect, au vivre ensemble.
Ouais, il faudrait qu'il vienne faire de la politique pendant 2 mois, il verrait que...
Mais pour toi, le français, c'est exactement comme l'environnement, le match est terminé, puis on a
terminé,
perdu.
Fermez les livres, parce que c'est la langue des écrans, c'est la langue de l'international... c'est sûr qu'il va toujours y avoir du français. Il y a 1 million de Japonais à Rio de Janeiro, puis ils parlent japonais entre eux. T'sais. Mais Rio de Janeiro, c'est pas une ville japonaise. Là. Mais il va se passer la même chose que Montréal. Il va y avoir quelques millions de Québécois qui vont parler français entre eux. Mais c'est quoi la force, la capacité d'influence, la capacité d'attraction des talents à travers le monde, la capacité justement d'influencer une banque, de dire tu vas engager un VP francophone? Parce que la Banque nationale, elle était dans l'eau chaude en 2011 parce qu'elle avait engagé un VP en informatique, 2 étages complets où ça ne parlait pas en français, pas un mot de français. Le VP avait demandé que toutes les communications se fassent en anglais seulement pour que lui puisse les comprendre parce que lui est anglophone. Mais ça, c'était en 2011. Après ça, ils ont fait de la formation un peu, ils ont donné des cours de français à certains directeurs. Mais c'est ça, la game. La game, c'est que j'engage du monde entier qui s'en viennent travailler pour nous parce qu'ils ont les compétences. Je prendrai pas un francophone puis je lui montrerai pas les compétences. C'est trop long, c'est trop compliqué, puis il les aura pas. Fait que moi, je dis que rendu là, on l'a perdu. Fait que, puis le petit move de dire, ben finalement, puis ton écran, ton cadeau que je t'envoie avec le clavier, c'est du plat, il est en anglais, le clavier. Mais ça, c'est quand même juste la cerise sur le sundae, ça.
Hey, Luc... Merci. Thank you very much. Good evening. Keep up the good work. Puis don't contribute to la polarisation et la fragmentation sociale.
Salut, Patrick.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Pénurie de main-d'œuvre et aux États-Unis, ça s'appelle la grande démission, the Great Resignation. C'est un phénomène qui se vérifie dans les entreprises. Au mois d'avril, là, les économistes ont noté ça dans les statistiques d'emploi, c'est-à-dire que on a cassé des records en avril d'Américains qui avaient démissionné. Et après ça, dans les mois qui ont suivi, on a brisé d'autres records comme ça. Ben, il y a des gens qui ont décidé que c'était assez les mauvaises conditions de travail, ont décidé de s'en aller. Il paraît que c'est pas très très fréquent aux États-Unis. On le vit ici aussi à plus petite échelle. Et c'est un phénomène TikTok aussi parce qu'il y a cette mode où les employés se filment en train de démissionner, en train de dire bye bye boss. Et ici, ben, il y a aussi des gens qui démissionnent. On va parler de tout ça avec Joël Carpentier, professeur au département d'organisation et ressources humaines à l'École supérieure de gestion de l'UQAM. Professeur Carpentier, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Ben écoutez, je vous ai lu dans un papier de Québécois Média là, où vous commentiez le fait qu'il y a 3 jeunes sur 10 qui, selon un sondage de Léger, là, songent à quitter leur emploi dans la prochaine année. Est-ce que c'est exceptionnel, ça?
Oui, c'est sûr que c'est exceptionnel ce qu'on observe en ce moment, en grande partie dû à ce que vous parliez là il y a quelques secondes à peine là de cette pénurie de main d'œuvre qui donne des options, qui donne le choix aux gens, qui leur donne le luxe, si on veut, de se poser la question de s'ils aiment leur emploi actuel.
Mais c'est ça, écoutez, moi j'ai 49 ans et quand j'ai commencé sur le marché du travail, même un peu avant là, les jobs d'étudiants, quand tu avais un emploi, tu lâchais pas ça comme ça parce que c'était dur à obtenir. Là, le pouvoir a complètement changé de main. Je veux dire, le pouvoir, si je comprends bien, il est plus dans les mains des boss, il est dans les mains des employés, là.
Exactement. C'est un marché d'emploi en ce moment qui est tout à fait favorable aux employés. Donc, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a beaucoup d'entre eux qui vont exercer ce pouvoir-là pour soit exiger des choses à leur employeur ou bien s'exiger à eux-mêmes hein, de trouver un emploi qui va les stimuler, qui va les rendre heureux, qui va leur plaire.
Qu'est-ce qui fait que les jeunes de 18 à 34 ans décident de partir? Qu'est-ce qui est le premier facteur qui les pousse à considérer une démission, c'est quoi?
C'est beaucoup le besoin de croissance. En fait, là, on va parler des jeunes, mais moi, j'aime toujours souligner là, que ces besoins-là, ils sont pas propres aux jeunes. Hein. Pour moi, c'est super important là, qu'on se rende compte que le fait d'avoir un travail qu'on aime, dans lequel on se sent bien, dans lequel on se sent bon, qui fait du sens, c'est pas propre seulement aux jeunes. Là, je pense que si on demandait aux jeunes n'importe quel âge, ils diraient, moi, je veux une job dans lequel je me sens bon, je me sens aimé, je me sens apprécié, je me sens reconnu. Donc, c'est la même chose pour les jeunes. Hein. Ils veulent une job qui fait du sens. Ils veulent une job qui les challenge, qui leur offre un environnement de travail, un environnement social, même plus global, qui est stimulant, propre à l'épanouissement, à la croissance personnelle et professionnelle.
Le meilleur conseil que vous pourriez donner à des employeurs présentement là, pour éviter que leurs employés jeunes et moins jeunes commencent à penser à s'en aller, ce serait quoi?
Écoutez-les. Moi, c'est le meilleur conseil que je donne, là, vraiment. Écoutez-les. Puis par écoutez-les, ça veut pas dire de se plier à tous leurs caprices, là. C'est vraiment pas ça qu'on suggère, mais c'est d'être beaucoup plus proactif que réactif. C'est pas au moment où quelqu'un nous donne une démission que c'est le temps d'aller y promettre la lune, d'aller promettre le gros salaire. Toutes ces choses-là, ça fait l'affaire jusqu'à temps qu'une autre entreprise arrive avec quelque chose de plus intéressant. Donc, moi, ce que je dis, c'est écoutez, qu'est-ce qui les stimule, de quoi ils ont besoin, consacrer du temps à l'humain puis aux besoins de l'être humain, de quelle façon on peut les rendre meilleurs dans ce sens aussi. Je l'entendais là quelques minutes avant que j'entre en onde, là, être pris avec des gens qu'on trouve pas optimales, admettons, là, au travail. Mais qu'est-ce qui les rendrait meilleurs personnellement, professionnellement, de quoi ils ont besoin? On est dans une belle phase là de redéfinition du contexte de travail avec ce fameux post-pandémie-là. Donc, utiliser donc cette opportunité-là pour créer un environnement de travail qui va donner envie à vos employés de rester ou aux autres de venir appliquer chez vous.
Mais professeur Carpentier, c'est un choc culturel, ça, pour beaucoup de gestionnaires, pour beaucoup d'employeurs, parce que ça fait des années, des décennies que les employeurs ont pas ou peu besoin de disons d'écouter les employés là.
Effectivement, un gros choc. Ça demande souvent une redéfinition du style de leadership, de ce qu'on cherche comme leader dans une entreprise. Là. Donc, j'en conviens, ça peut être très confrontant pour certains gestionnaires. Et puis même quand on questionne là, les fameux millénarios là, sur ce qu'ils cherchent dans un emploi, beaucoup vont nommer qu'ils veulent avec leur supérieur une relation qui est plus du type de coaching ou de mentoring, même que de supervision. Donc, demander à un leader, un superviseur de passer d'un style plus autocratique, superviseur, à un style coach, mentor, c'est sûr que ça demande un grand changement d'approche, un grand changement dans les croyances aussi là, de ce qui est réellement efficace en milieu de travail.
Et ça va durer combien de temps, cette ère où les employés ont le gros bout du bâton? Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a des prévisions en ressources humaines qui nous disent, disons, peut-être le point de rupture où les patrons vont reprendre le gros bout du bâton?
C'est une très bonne question. Non, on peut pas avoir de prédiction très, très juste à ce niveau-là, là, donner une période de temps. Mais, tu sais, dans le fond, j'ai aussi envie de dire là-dessus qu'il n'y a jamais personne qui va être perdant de prendre soin de l'être humain en arrière des employés. Là. Donc, même si un jour, on se retrouve dans une situation où est-ce que c'est plus nécessairement les employés qui ont le bon bout du bâton, les employeurs seront pas perdants là, d'avoir adopté une approche humaine à ce moment-là. Là. Donc, il n'y a pas grand-chose à perdre, je dirais.
Vraiment intéressant. Merci beaucoup de vos lumières, professeur Carpentier. Bonne journée.
Merci à vous.
Salut, c'était Joël Carpentier, professeur au département d'organisation et de ressources humaines de l'École supérieure de gestion à l'UQAM. Et professeur Carpentier était cité dans un papier là, du journal 24 heures sur le fait que, c'est ça, chez les jeunes, il y a 3 jeunes Québécois sur 10, là, chez les 18 à 34 ans, qui songent à quitter leur emploi sans en avoir un autre là, dans la prochaine année. Le gros bout du bâton a changé de main. Et anecdote là-dessus, en terminant, il y a un jeune homme de ma connaissance, en fait, un ami de mon fils qui travaille dans une épicerie. Et lui, ce qu'il m'a dit pour moi, là, c'était de la science-fiction quand il m'a raconté ça. En fait, quand ses parents m'ont raconté ça, il a rempli une formule d'application, il a été appelé, et puis là, on lui a offert des heures. Lui a dit, écoutez, samedi, dimanche, oui, mais pas trop tôt. Puis samedi soir, je travaille pas, par exemple, l'épicerie est ouverte jusqu'à 10h, 11h, quelque chose comme ça. Je travaille pas parce que c'est le soir où je vois mes chums. Ça, là, à mon époque, quand tu devais être disponible le jeudi soir, le vendredi soir, puis les deux jours de fin de semaine, ça aurait été de la science-fiction. Ben, savez-vous quoi? Il a été embauché. Fait que regardez, on peut chialer, mais moi, je dis, c'est ça, la loi de l'offre et de la demande aussi. 18 décembre, l'astrophysique va vivre un grand moment, le début là, probablement de découvertes fascinantes sur l'univers. La NASA va lancer le télescope spatial James Webb. On va envoyer un télescope dans l'espace, donc visibilité pour voir un peu, par exemple, comment est né l'univers. Il y a encore de grands mystères qui entourent la naissance de l'univers. Et ce télescope-là, évidemment, c'est le bébé de la NASA, mais il y a l'Agence spatiale européenne et l'Agence spatiale canadienne qui ont collaboré. Et il y a des spécialistes de l'Université de Montréal qui y sont liés. On va parler de tout ça avec Loïc Albert, spécialiste d'instruments astronomiques associé de recherche à l'UdeM. Loïc, bonjour.
Hey, bonjour, Patrick.
Loïc, d'abord, là, expliquez aux gens qui nous écoutent le lien entre les équipes de recherche de l'Université de Montréal et ce nouveau super télescope spatial James Webb.
Oui, ben, c'est que pour chaque grand projet de télescope, il y a toujours une équipe scientifique, il y a des questions scientifiques qui se posent à la base, puis c'est les scientifiques qui prennent l'initiative de lancer un projet. Donc, c'est vraiment ce qu'on est, nous, à Montréal, c'est que au Canada, on est l'équipe scientifique qui a lancé l'idée de joindre l'Agence spatiale canadienne à la NASA pour contribuer à un instrument, c'est-à-dire bâtir un instrument, une caméra infrarouge qui va être à bord du télescope. Donc, l'Agence spatiale paie la facture, mais les idées, la science derrière, c'est nous à l'Université de Montréal qui avons développé ça, si on veut.
Ça fait des décennies que ce super télescope spatial James Webb est en gestation. Là, il va être lancé de la Guyane dans exactement un mois, le 18 décembre. Loïc, qu'est-ce qu'il a de spécial, ce télescope spatial?
Ah là là, oui, 20 ans, c'est à peu près ça a commencé il y a 20 ans. C'est un télescope qui est vraiment révolutionnaire. C'est la machine en astrophysique, de loin la machine la plus complexe à jamais avoir été fabriquée. Okay? On parle d'un énorme télescope qui observe la lumière infrarouge, donc qui détecte la chaleur des astres, qui perce la poussière, qui passe à travers la poussière pour observer ce qui se passe à l'intérieur des nuages de poussière où se forment les étoiles, qui observe les galaxies les plus lointaines de l'univers, les premières galaxies à s'être formées dans l'univers. Donc, c'est un télescope qui a coûté très cher, hein, parce que c'est une machine très complexe. Et à la base de ça, c'est parce que c'est un gros télescope. C'est un télescope qui va être 100 fois plus sensible que le télescope Hubble. Hein, on a tous dit que le télescope Hubble, c'est la plus grande machine qui a fonctionné pour l'astronomie. Mais là, le télescope Webb, c'est 100 fois plus puissant. C'est un miroir qui fait 6,5 mètres de diamètre par rapport aux 2,5 mètres de Hubble. Donc, oui, et je pourrais vous en dire beaucoup sur comment, toute la complexité qui va être impliquée bientôt dans 30 jours. Dans 30 jours, on va avoir lancé le télescope. Le 18 décembre à 7h20, en Guyane française, la fusée Ariane 5 s'en va et 10 minutes plus tard, on est dans l'espace, puis se suivent après à peu près 2 semaines de terreur où on va faire le déploiement du télescope. Donc, il y a plein d'étapes.
Pourquoi 2 semaines de terreur, Loïc Albert?
Bien, imaginez, c'est parce que ce télescope-là est trop gros pour fitter dans la soute de Ariane 5, qui a beau être une des plus grosses fusées, c'est quand même trop gros. Donc, il a fallu replier le télescope sur lui-même, littéralement comme de l'origami.
Oui.
Hein, il y a à peu près 50 pièces qui vont devoir s'ouvrir ou se déplier. 50 pièces, OK. Puis ça veut dire que ça va être fait en à peu près 300 étapes, une après l'autre, qui doivent fonctionner sans défaillance, une après l'autre. Puis je regardais ça, j'essayais de comparer la complexité de ça par rapport à monter un meuble IKEA. Patrick, vous avez sûrement déjà monté un meuble IKEA.
Oui, c'est ça? Très frustrant.
Ben, imaginez que la commode M-Ness, apparemment, c'est la plus complexe. Il y a 51 étapes à réaliser. Ça prend 2,5 heures à 2 personnes. Mais ça, c'est pour monter le M-Ness de IKEA. Mais oui. Le Hubble, c'est 300 étapes comme ça qui doivent fonctionner une après l'autre.
Pourquoi est-ce que c'est important d'étudier, de scruter le cosmos comme ça?
Ah, ben là, on touche vraiment aux questions fondamentales que l'humain se pose. On transcende la vie quotidienne ici. C'est clair que ça n'a pas d'application nécessairement directement sur Terre, mais là, on parle de comprendre, par exemple, comment se forment les étoiles, jusqu'à quelle masse, les plus hautes masses, les plus faibles masses se forment les étoiles. On parle, par exemple, de comprendre à quel moment, après le Big Bang, se sont formées les premières galaxies. On pense actuellement que c'est peut-être après 200 millions d'années. Ça paraît beaucoup, 200 millions d'années, mais c'est vraiment peu. Mais on n'a pas d'observation pour confirmer ça. Donc c'est vraiment pour toucher à ces questions fondamentales là qu'on étudie. Puis comme dans tout projet dans l'astronomie, on pense qu'on va résoudre des questions, puis finalement après 10 ans, on se rend compte que les plus grandes découvertes, ben c'était des découvertes auxquelles on s'attendait pas. Et c'est ça que n'importe quel nouvel instrument comme James Webb ouvre comme possibilité. On va découvrir des choses auxquelles on ne s'attendait pas.
Loïc, il y a des centaines d'astrophysiciens là, qui ont demandé à la NASA de pouvoir avoir du temps pour observer l'univers à travers le télescope spatial James Webb. Et votre projet a été accepté. Vous allez avoir des heures pour observer le cosmos comme ça de façon privilégiée. Qu'est-ce que vous allez faire avec ces heures-là?
Oui, ben d'abord, j'étais super content d'apprendre la nouvelle quand j'ai appris que j'ai été sélectionné comme projet. Ce que je vais faire, c'est un projet vraiment pointu, là. J'observe des naines brunes. Des naines brunes, c'est des astres qui sont à mi-chemin entre des planètes et des étoiles. C'est comme des mini-étoiles, mais qui brillent pas. Mmh. Et j'essaie de trouver, à côté de ces naines brunes-là, soit des grosses planètes ou d'autres naines brunes un peu plus petites que la principale, pour essayer de voir, ben, les naines brunes, est-ce qu'elles se forment naturellement toutes seules ou bien si elles viennent souvent en paire ou en binaire comme pour les étoiles? Donc, j'essaie un peu d'explorer cet aspect-là des naines brunes auquel on n'a pas accès depuis la Terre parce que les naines brunes émettent seulement en infrarouge. Puis, si jamais j'arrive à trouver des compagnes à ces naines brunes-là, à quelques-unes, ben ça ouvre la voie à regarder la compagne bouger avec le temps puis tracer une orbite pour déterminer la masse de la naine brune centrale. Et ça, la masse, on les connaît pas. On a juste des modèles, mais c'est très difficile de confirmer la masse d'un objet comme ça. Donc, ça ouvrirait la voie à montrer, ben, c'est quoi les plus faibles masses que la nature peut produire avec le mode de formation d'étoiles. En fait.
Oui. Loïc, je l'ai déjà dit, la question qui me donne le plus le vertige à propos du cosmos, c'est qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang, avant que la matière, avant que l'univers existe? Vous, la question là, qui vous donne le plus le vertige, à laquelle vous aimeriez le plus avoir une réponse en ce qui concerne le cosmos, c'est quoi?
Il y a l'énergie sombre. Je me souviens la dernière fois qu'on s'était parlé, ou une des dernières fois, j'avais parlé de la matière sombre, mais il y a aussi l'énergie sombre, OK, qui est une une force complètement exotique qu'on connaît depuis très peu de temps, depuis le tournant des années 2000, on s'est aperçu que l'univers, oui, était en expansion, ça on le sait, mais l'univers est en expansion de plus en plus accélérée. Donc, on n'a pas affaire à une espèce d'explosion qui tranquillement ralentit, hein, pour se refermer sur elle-même. Non, on a un univers qui est en expansion et l'expansion s'accélère. Et ça, c'est, on pense, dû à l'énergie sombre. On a donné un nom à ce phénomène-là, mais on ne sait pas ce que c'est. Mmh. On pense qu'il y a peut-être une loi fondamentale, une loi de la nature fondamentale, une force fondamentale qui existe, qu'on maîtrise pas, qu'on ne connaît pas encore. Et donc, la mesure de cette expansion-là, ben, on a besoin d'observer des galaxies très lointaines pour la faire, OK? Et entre autres, James Webb va nous permettre de pousser plus loin cette mesure-là à des galaxies encore plus lointaines pour raffiner comment l'accélération s'est faite. Et ça va peut-être nous aider à contraindre un petit peu mieux ce que c'est que l'énergie sombre.
Toujours fascinant de vous parler. Merci beaucoup, Loïc.
Ben, ça m'a fait plaisir.
Salut, c'était Loïc Albert, spécialiste d'instruments astronomiques et associé de recherche à l'Université de Montréal, qui nous parlait du télescope spatial James Webb, qui va te permettre de découvrir de belles choses pendant de nombreuses années. Ça va être lancé dans exactement un mois.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... ou votre emploi du soir. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré.
Ah bon, un flamand. Bien oui, je le confirme, c'est bien un flamand du zoo de Granby. Par contre, je tiens à rassurer tout le monde, il ne s'est pas ramassé à cet endroit parce qu'il y a spécial sur les crevettes au IGA.
Oui, c'est la voix de Carl Fournier, directeur des soins animaliers du zoo de Granby, là, qui commentait un peu plus tôt sur les médias sociaux la fuite d'un flamand rose du zoo qui n'est pas allé au IGA pour se chercher des crevettes. Monsieur Fournier est au bout du fil. Monsieur Fournier, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Qu'est-ce qui s'est passé? Comment se fait qu'un flamand rose s'échappe du zoo de Granby?
Très bonne question. Même à l'heure actuelle, on n'a pas encore tout à fait la réponse.
Est-ce qu'il y a eu l'aide de complices?
Oui, on espère que non. Mais en fait, sincèrement, la raison qui l'a motivé à quitter le groupe, parce que ce sont des animaux qui sont très grégaires et ils ne veulent pas quitter le groupe, c'est vraiment très solidaire, ils restent tous ensemble. Et pourquoi cet individu-là est parti à voler pour se rendre dans ce stationnement-là près du IGA, nous reste encore inconnu. Par contre, les gens se demandent, OK, mais pourquoi que le flamand est parti à voler? Simplement que nous, on fait toujours une taille d'aile à leur sortie au printemps, qui est en passant inoffensif pour l'oiseau, parce que c'est pas vascularisé, donc c'est comme couper des ongles. Mais c'est les plumes, qu'on va couper les plumes primaires et les plumes vont repousser au courant de la saison. Quand on arrive à l'automne, généralement, on voit que les plumes sont presque à leur taille, à la bonne taille. Par contre, les animaux jamais vont chercher à partir à voler, à s'éloigner, et on leur laisse le choix d'aller à l'intérieur ou à l'extérieur. Là, pour une raison quelconque, on ne comprend pas pourquoi cet individu-là, tout d'un coup, s'est isolé de son groupe et est parti en s'envoler, ce qui nous reste encore inconnu là, à l'heure actuelle.
Il y a peut-être un film à faire comme pour Free Willy avec votre flamand rose.
Oui, peut-être. Peut-être que lui, il voulait aller dans le sud, voyant le froid arriver.
Est-ce qu'il aurait pu survivre longtemps au froid à 0 degré à peu près, comme ces jours-ci?
C'est des animaux quand même très, très tolérants. Comme je vous mentionnais, nous, la manière qu'on fonctionne quand on arrive à l'automne, c'est qu'on a leur quartier intérieur, on a des doubles portes et on leur laisse le choix. Donc, on laisse les doubles portes ouvertes et en tout temps, jour et nuit, c'est eux qui décident où c'est qu'ils veulent aller. Ce qu'on voit, nous, c'est que la nuit, vu que c'est plus froid, généralement, ils vont rentrer dans le quartier intérieur. Okay. Et le jour, par eux-mêmes, ils décident de sortir à l'extérieur et ils reviennent par la suite à l'intérieur. Donc, c'est vraiment eux qui décident d'où c'est qu'ils veulent aller. mais on sait que c'est quand même des animaux là qui supportent très bien le froid. Par contre, durant l'hiver, ils sont pas en mesure d'habilité pour survivre à l'hiver.
Vraiment intéressant. Puis écoutez, vous l'avez, dernière question, vous l'avez récupéré là sans aucun problème.
Effectivement, ça s'est déroulé rapidement, quelques minutes à peine. Et l'animal, lorsque nous on est arrivé, il s'était déplacé, il était rendu là dans un fossé. Et on a deux de nos techniciennes qui sont approchées de lui tranquillement parce qu'il semblait calme, donc on ne voulait pas avoir trop de monde alentour. Et il s'est laissé capturer assez facilement là à la main nue. Là. Donc, ils l'ont attrapé, ils l'ont mis sous leur bras parce qu'on veut toujours pas abîmer les ailes.
Formidable.
Et on l'a relâché avec les autres et il va très bien.
Merci beaucoup, M. Fournier. Salutations à votre flamant rose.
Il est en santé, c'est l'important.
Ben, salut.
Oui, ça fait plaisir. Bye-bye.
C'était Carl Fournier, directeur des soins animaliers du Zoo de Granby. Le flamant rose qui s'est échappé a été retrouvé.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.